au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Nous sommes de retour avec le bloc à Philippe Lagu. Je m'attendais à ce qu'on ait une petite présentation. Mais Philippe est là. Salut Philippe!
Allô? M'entends-tu?
Salut!
Oui,
bon. Bon, voilà.
On est là.
Philippe, on va faire rêver les gens en parlant de Corvette. Et là, tu nous ramènes dans l'histoire et dans une belle histoire.
On peut dire qu'on parle d'une voiture mythique, hein? Et le mot mythique est peut-être utilisé à tout vent là, dans l'industrie automobile, surtout par les spécialistes de marketing. Mais il faut bien admettre que c'est un qualificatif approprié quand il est question de la Corvette. D'abord, en raison de sa longévité, hein, la Corvette existe depuis 1953, ce qui en fait, à 65 ans, bien sonner la doyenne des voitures sport. À titre de comparaison, là, c'est 11 ans de plus que la Mustang et la Porsche 911. Puis mythique aussi parce que comme la Mustang et la 911, justement, la Corvette est une icône. Une icône de la culture américaine, là, au même titre qu'Elvis, Marilyn Monroe ou la bouteille de Coke, mais une icône qui n'est pas restée figée dans le temps. Puis évidemment, dans une carrière de plus de 60 ans, bien, il y a eu des hauts puis il y a eu des bas, on va y revenir, mais la Corvette est encore là et quoi qu'en disent les mauvaises langues, elle est toujours pertinente et vous allez le voir dans le deuxième bloc, là, meilleure que jamais. Mais avant de commencer, je vous invite, comme toujours, à aller voir ma page Facebook où vous pouvez voir des photos des Corvettes de toutes les générations. Il y a aussi, j'ai aussi du matériel sur mon site www.philippelagu.com où on a déjà fait quelque chose sur la Corvette de deuxième génération. Et si vous voulez vraiment tout savoir sur l'histoire de la Corvette, là, bien, je vous invite à lire l'excellent et incontournable dossier de mon collègue Alain Morin du Guide de l'auto. Et son dossier, c'est du travail de moine et il justifie à lui seul l'achat du livre. Je pense que tu l'as vu toi aussi, Daniel.
Oui.
Ah, voilà. Donc, la Corvette voit officiellement le jour le 30 juin 1953 à l'usine de Flint, au Michigan, d'où sort le tout premier exemplaire. Au début de la même année, elle avait été présentée officiellement à New York dans le cadre du Motorama, une exposition annuelle itinérante qui servait à présenter les futurs modèles de General Motors. Puis du même coup, on tâtait le pouls des consommateurs aussi. Et derrière la Corvette, faut le dire, il y a deux hommes. Alfred P. Sloan, celui qui a été le plus longtemps aux commandes de GM et qui en a fait le géant qu'il est devenu, et Harley Hurl, une autre légende de l'industrie automobile, qui a été le premier à diriger le département de design de General Motors. Et sans ces deux hommes, il n'y a pas de Corvette. Alors, Harley Hurl a un coup de cœur pour la Jaguar XK120, une voiture qu'il découvre lors de ses voyages en Europe. Et à la même époque, là, on est après la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi des GI, des soldats américains qui reviennent d'Europe et qui rapportent avec eux des petites voitures sport, surtout des anglaises. Et puis d'ailleurs, hein, les Austin Healy, MG, Triumph et Jaguar vont ensuite être exportés aux États-Unis. Alors, l'idée de construire une sportive décapotable 100% américaine, là, elle vient de là. Et c'est donc la Jaguar qui sert d'inspiration, mais c'est une voiture qui est assez dispendieuse à l'époque. Et chez GM, on veut bien faire une sportive, mais évidemment, on veut la faire plus abordable. Alors, c'est pour cette raison, entre autres, que sa carrosserie va être en fibre de verre, parce que le temps presse et que c'est moins long et moins cher que de concevoir des moules pour fabriquer une carrosserie en acier. Et c'est comme ça que la Corvette va devenir la première voiture de série construite en fibre de verre. Et pour réduire les coûts au minimum, hein, ça revient souvent dans l'histoire de GM, Daniel.
Oui.
On pige dans la banque d'organes de Chevrolet. Moteur, transmission, suspension, direction, toute la mécanique de la Corvette existe déjà. Ce qui explique pourquoi on a pu passer aussi rapidement de la conception à l'assemblage. Harley Hurl, lui, aurait bien voulu un V8, mais à l'époque, il y a une hiérarchie au sein des divisions de GM et le V8 est un privilège réservé au Buick et au Cadillac. C'est donc un 6-cylindres en ligne d'origine assez modeste, hein? Un moteur Chevrolet surnommé le Blue Flame qui loge sous le capot des premières Corvettes et c'est son principal handicap. Parce que non seulement il n'est pas très puissant ni très raffiné, mais en plus il est jumelé à une transmission automatique à deux vitesses, la bien mal nommée Power Glide. Et là, vous avez le parfait exemple d'une décision de comptable qui tue un bon projet. C'est un phénomène qui va devenir récurrent chez GM au point où on peut parler de culture d'entreprise et qui va être à l'origine de plusieurs fiascos chez ce constructeur. La Corvette passe elle-même très proche d'en être un, hein, les deux premières années. Elle se vend très peu et c'est l'ajout d'un V8 en 1955 qui va la sauver du naufrage. Ça, et une baisse de prix, tout juste en bas de 3000 $ pour une Corvette V8. Imagine, la 6 cylindres au début coûtait plus cher. Oui, c'était presque aussi cher que la Jaguar, hein, ce qui était un autre problème. Mais ce qui a aussi sauvé la Corvette, c'est l'arrivée de sa concurrente, la Ford Thunderbird. Parce qu'abandonner la Corvette, ça aurait été un aveu d'échec pour GM, et surtout, il ne fallait pas laisser le champ libre à Ford. Alors, en 1956, on abandonne le 6 cylindres pour de bon, et la carrosserie a droit à ses premières modifications importantes. À partir de là, la Corvette devient de plus en plus puissante, de plus en plus sportive et de plus en plus raffinée. En 1957, par exemple, le V8 est proposé avec l'injection d'essence, ce qui est révolutionnaire là, à l'époque. Là. On les surnomme les Chevrolet Fuelie, on va en produire un peu plus de 1000 et elles sont aujourd'hui très recherchées par les collectionneurs. Mm-hmm. Alors, la Corvette a non seulement survécu, mais en 1960, la production annuelle va dépasser pour la première fois 10 000 exemplaires. Après avoir passé proche d'être abandonnée, c'est quand même...
C'est quand même très bon.
Oui, il faut le souligner. Ben et oui. Puis, entre-temps, Daniel, Harley Hurl a pris sa retraite. Et c'est Bill Mitchell qui le remplace à la direction du design chez GM. Mitchell, lui, va confier à un de ses protégés, Larry Shinoda, la conception d'une voiture de course, la Stingray. Et c'est elle qui va servir d'inspiration à la prochaine Corvette. Elle va même lui donner son nom. Et la deuxième génération, bien, elle voit le jour en 1963. Et pour beaucoup d'amateurs et de spécialistes de la Corvette, là, c'est la quintessence, le summum ben oui. de ce modèle.
Et c'est encore dans les plus recherchés aujourd'hui.
Ben, voilà. Bien, les changements sont nombreux en ce moment-là. Il y a un nouveau châssis, carrosserie qui est redessinée au complet. Et pour la première fois, la Corvette se décline en deux configurations, coupée et décapotable. Et c'est aussi sur la C2 qu'apparaissent les phares escamotables. Mm-hmm. 1963, c'est l'année de la split window, la vitre arrière qui est séparée dans le milieu, et le séparateur va être éliminé l'année suivante parce qu'il nuit supposément à la visibilité. Mais aujourd'hui, la split window, c'est le saint graal des collectionneurs de Corvette.
Si vous en avez une split window, wow!
Oui, là, vous venez...
Sortez ça du garage si vous avez besoin d'argent. Oh, ça va être du monde d'or.
Ça va être votre fonds de pension, assurément.
Oh, oui.
C'est aussi ma Corvette préférée. Hein. Moi, la split window là, fait partie de mon top 5 personnel. Et c'est avec la Corvette de deuxième génération, la C2, que commence la course à la puissance. En 1963, son V8 de 327 pouces cubes, le small block qu'on appelait, développe entre 250 et 360 chevaux selon la version. Et à partir de 1965, Chevrolet va aussi proposer ses big blocks. D'abord le 396, ensuite le 427 ou si vous préférez 6,5 et 7 litres.
Ouais.
C'est des gros moteurs. Et avec ces gros moteurs, ben, on dépasse la barre des 400 chevaux et même 450 pour le 7 litres. Là, on est au milieu des années 60, il ne faut pas l'oublier. Et ben, même aujourd'hui, 450 chevaux, là, c'est un chiffre plus que respectable. Alors, imaginez il y a 50 ans. Là. Alors, la C2 va durer 5 ans, 1963 à 1967 inclusivement, et elle place la barre très haute pour la génération suivante.
Bon, parle-moi de la C3.
Ben, la C3 va durer, elle, trois fois plus longtemps. Elle va durer 15 ans. Si on regarde le verre à moitié plein, c'est celle qui a duré le plus longtemps, mais si on regarde le verre à moitié vide, on est plutôt porté à dire qu'elle a duré trop longtemps.
Trop longtemps.
Ouais, c'est ça
c'est
le problème.
Mon opinion.
Moi aussi. Autant la C2 fait l'unanimité, là, ou presque, auprès des amateurs de Corvette, autant la C3, c'est une génération qui polarise les opinions. C'est aussi pendant cette période hein, que va s'amorcer son déclin. Pourtant, ça commence pas si mal pour la C3. Au début, c'est surtout la carrosserie qui monopolise le débat. Alors, tant que c'est juste ça, c'est pas trop grave. Le design est grandement inspiré du prototype Mako Shark, qui a été dessiné lui aussi par Larry Shinoda. Il y en a qui aiment, il y en a d'autres qui détestent, mais son profil qui est tout en courbe et qui est inspiré hein, de la forme d'un requin est vraiment spectaculaire et ça donne une identité très forte à la Corvette qui ne ressemble à aucune autre voiture sport. Déjà ça, c'est pas rien. Et visiblement, ben, les admirateurs sont plus nombreux que les détracteurs parce que la C3 bat des records de vente dès sa sortie. Elle reprend le châssis de la C2, les mêmes éléments mécaniques aussi, mais la course à la puissance va se poursuivre avec des augmentations de cylindrée, autant pour les small blocks que les big blocks. Et on atteint le paroxysme en 1969 avec un gros bloc de 454 pouces cubes, 7,4 litres. Et si la Corvette est une des rockstars de l'automobile, ben, elle va avoir un parcours aussi chaotique que celui d'une rockstar. Hein? Tu as déjà écouté, Daniel, des musicographies de Musimax. Tu as toujours l'ascension, la consécration, puis après ça, la descente. C'est ça. Alors, la Corvette va être victime de ses excès, mais elle va aussi être victime, puis il faut le dire, là, des bouleversements économiques et sociaux des années 70. D'abord, la première crise du pétrole en 1973. Ensuite, l'avènement de normes anti-pollution de plus en plus sévères. Tout ça va amener une constante diminution de la puissance qui va atteindre un creux historique en 1975, avec 165 chevaux. On est loin des 400 et 450 chevaux, là. Mais il y a aussi le mouvement féministe qui va contribuer à ostraciser, j'allais dire castrer, la Corvette, qui va devenir, bien malgré elle, un symbole du machisme, au même titre que la moustache, le poil sur le chest et ou la corne d'abondance dans le cou. Là. Et c'est encore pire au Québec, avec le célèbre dicton hein, qui, 40 ans plus tard, colle encore à la Corvette.
Hey, tu peux pas le dire.
Non, puis je le dirai pas non plus. Je le dirai pas parce que je suis plus capable de l'entendre. Je tiens à le dire. Puis c'est un dicton qui est toujours répété là, ad nauseam par des gens qui, évidemment, en ont jamais conduit une et qui savent donc pas de quoi ils parlent. Parce que la Corvette, après avoir été déclarée cliniquement morte, va renaître. Et ça, je te garde ça, Daniel, pour le prochain bloc.
Et je me peux plus, j'ai déjà hâte au prochain bloc. Merci, Philippe. On se reparle tout à l'heure, évidemment. Je vous rappelle la question du jour, courtoisie. Hein? On parle un peu de courtoisie. Quel comportement des autres automobilistes vous répugne ou encore vous agresse? On fait une pause et au retour, on vous parle. Restez là.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Auto 360, de retour après la pause.
Au réseau Cogeco. Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360, avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360, voici la chronique luxe, prestige et histoire, avec Philippe Lagu.
Oui, nous sommes de retour en compagnie de Philippe, et si vous vous souvenez, on a parlé de Corvette tout à l'heure, et ça se poursuit, Philippe.
Ça se poursuit et puis là, je vais enchaîner ça avec un petit volet personnel parce que ça fait maintenant 26 ans que je suis chroniqueur automobile. J'ai officiellement commencé ma carrière en 1991 et j'ai conduit mes deux premières Corvettes cette année-là. Une décapotable verte en plein été, ça je vais m'en rappeler toute ma vie. J'étais allé au Saguenay d'ailleurs, on était à l'âge. J'ai fait une randonnée mémorable dans le parc des Laurentides là, jusqu'à Jonquière et une ZR1. Quelques mois plus tard, et ça aussi, je ne suis pas prêt de l'oublier, hein, 375 chevaux en 1991, c'était quelque chose. Ça laisse des traces au propre comme au figuré. Alors, en 1991, la Corvette en était à sa quatrième génération, et c'est sans aucun doute l'une des plus importantes de son histoire, parce que c'est celle de la Renaissance. C'est celle qui lui a redonné ses lettres de noblesse là, après une longue traversée du désert. Il faut dire qu'avec la C4, on est parti d'une feuille blanche, avec des nouveaux visages, donc de nouvelles idées. Tous ceux qui étaient associés à la Corvette depuis sa naissance là, étaient soit partis à la retraite ou n'étaient plus de ce monde. Alors, la C4 a été conçue vraiment là, avec un regard neuf. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on a tout balayé sous le tapis. Là. La Corvette existait déjà depuis une trentaine d'années. Elle avait un passé, une histoire, un code génétique. Et visuellement, on a d'ailleurs respecté les codes esthétiques de la Corvette. Hein. Quand on regarde une C4, il n'y a aucun doute sur l'identité de la voiture. Mais pour le reste, tout est nouveau, à commencer par un nouveau châssis, beaucoup plus rigide que l'ancien, mais ça, c'était pas bien difficile. Hein? On corrigeait ainsi la principale lacune de la génération précédente. Là. Le comportement en est le premier à en bénéficier, d'autant plus qu'on a aussi redessiné les suspensions sur la C4. On a aussi beaucoup amélioré l'aérodynamisme, et ça, c'est un aspect auquel on portait pas tellement attention auparavant. La qualité d'assemblage, elle, ben, c'était carrément devenu une notion abstraite. Et là aussi, on a apporté des améliorations. On a même fait preuve d'audace avec un tableau de bord digital à l'époque, quand même.
Hein. Oui, hein. Je me souviens de ce tableau de bord.
Ben oui, ben, qu'on n'a pas gardé. Hein. À partir de 1990, on est revenu à un tableau de bord avec des cadrans analogiques. Là. Côté moteur, par contre, on a joué la carte de la continuité ou du conservatisme, c'est selon, avec le V8 de 5,7 litres, l'increvable 350. Mais à partir de l'année suivante, donc en 1985. L'injection remplace le bon vieux carburateur, ce qui fait passer la puissance à 230 chevaux. Si ça semble peu aujourd'hui, il faut quand même mentionner que la C4 est capable d'atteindre 240 km/h en vitesse de pointe, là, tout de même.
Pas
ouais, c'est pas rien, puis surtout en 1985. Puis ici, il faut faire une précision importante, parce que si je la fais pas, les disciples de la Corvette vont se faire un plaisir de le faire à ma place. Il n'y a pas eu de millésime 1983. Il n'y a pas de Corvette de l'année modèle 83. Pourtant, le lancement de la quatrième génération était prévu cette année-là pour que ça coïncide avec le 30e anniversaire de la Corvette. Mais comme on voulait vraiment repartir à neuf, avec une voiture capable de concurrencer les meilleures sportives de la planète, comme ça avait déjà été le cas, on a préféré sauter une année, question de se donner plus de temps là, pour corriger toutes les imperfections. Il y a quand même 43 Corvettes 1983 qui ont été construites, mais on les a finalement détruites, sauf une, qui est aujourd'hui au musée de l'usine Corvette de Bowling Green.
Et ça doit valoir une fortune, cette voiture-là. C'est ça, pas d'aller l'acheter.
Inestimable.
Ça coûte cher, ouais.
Alors, le cycle de vie de la quatrième génération va s'arrêter après 13 ans, en 1996, ce qui a place au second rang là, de l'histoire de la Corvette là, pour ce qui est de la longévité. En fait, l'arrivée de la C5 était prévue, elle, pour 1993, année du 40e anniversaire de la Corvette. Mais encore une fois, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Même que la C5 a failli ne jamais exister. Parce qu'au début des années 90, General Motors, qui avait toujours été synonyme de rentabilité, commence à avoir des sérieux problèmes financiers. Au point où l'avenir de la Corvette est remis en question. Heureusement, il y a des gens à l'interne qui vont se battre pour la sauver. Et la C5 va finalement être présentée au Salon de Détroit en janvier 1997. Et ceux qui se sont battus pour elle sont récompensés parce que ça fait longtemps qu'une nouvelle Corvette n'est pas aussi bien accueillie par la presse spécialisée. Il faut dire que sa puissance, là, 345 chevaux à l'époque, et son comportement la place en concurrence directe avec des voitures qui coûtent deux fois, sinon trois fois plus cher, là. Aston Martin, Ferrari, Porsche, ce qui est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et moi, j'ai beaucoup aimé la Corvette C4, mais j'ai adoré la C5. En fait, je pense que je suis vraiment arrivé au bon moment là, dans ma carrière, parce qu'à partir de la C4, la Corvette s'est bonifiée de génération en génération. Et quand je dis bonifiée, j'inclus tous les aspects, là, raffinement mécanique, puissance, comportement, mais aussi l'ergonomie et la finition. Hein. Deux aspects qui n'étaient pas ses points forts, mettons.
Non, pas vraiment.
Et dans la C5, ben, c'était déjà beaucoup mieux que dans la C4. Et la progression a continué dans les C6 et C7. Encore une fois, on a essayé de faire coïncider le lancement de la sixième génération avec un anniversaire important de la Corvette, son 50e. Puis encore une fois, Daniel, il y a eu un contretemps. Parce que la C6 devait être lancée en 2003. Mais les attentats du 11 septembre 2001 et leur impact sur l'économie américaine ont retardé le processus de développement de la Corvette, de la C6. Même si son empattement est un petit peu plus long, la C6 est plus courte et plus légère que la C5. Et pour la première fois depuis des lunes, la cylindrée du V8 augmente. Elle passe de 5,7 à 6 litres, ce qui se traduit par une cinquantaine de chevaux supplémentaires. C'est donc dire qu'une C6 de base là, a droit à un moteur de 400 chevaux. Encore une fois, la Corvette continue de proposer un rapport prix-performance tout simplement inégalable. On dépasse même la barre des 500 chevaux avec la Z06, qui est une version plus puissante là, qui est dérivée directement des Corvettes qui courent aux 24 heures du Mans. Puis il y a aussi la ZR1 hein, avec son V8 de 6,2 litres qui est suralimenté par un compresseur qui va mettre la barre encore plus haute. Là, on tombe en plein délire. 638 chevaux et plus de 600 livres de couple. Et c'est important de préciser qu'à ce moment-là, le cours de pilotage est inclus dans le prix. Puis c'est vrai. Autre fait notable de la C6, qui est cosmétique cette fois, les phares escamotables disparaissent après trois générations. Sur le plan esthétique d'ailleurs, la C6, hein, ça ne plaît pas à tout le monde, mais au moins ses qualités routières font l'unanimité, c'est le principal. Moi, j'en ai conduit à deux reprises, puis à chaque fois, j'ai décrété que c'était la meilleure Corvette que j'avais conduite, surtout la 427 là, qu'on a déterrée là, vers la fin de la sixième génération. Ce qui nous amène, Daniel, à la C7, qui est celle que je connais le mieux. parce que c'est celle que j'ai conduite le plus souvent et parce que j'ai eu le privilège d'assister au lancement, il y a 3 ans, en Californie. Et de tous les lancements auxquels j'ai assisté dans ma carrière, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué. D'abord parce que la Corvette est une icône et parce que c'est ma voiture de rêve. Et aussi parce que cet événement m'a permis de rencontrer ses concepteurs. Puis il faut dire, hein, Daniel, que conduire une Corvette en Californie, c'est la conduire dans son habitat naturel.
Voilà.
Puis encore une fois, ben, l'histoire s'est répétée. Le lancement de la C7 a été compromis à cause de la faillite, la retentissante faillite de GM en 2009. Mmh. Heureusement, le gouvernement américain est venu à la rescousse de GM et la C7 a finalement été présentée au public en janvier 2013. Et pour une fois, elle n'a pas raté son anniversaire parce qu'en janvier 2013, elle célébrait ses 60 ans. Alors, la C7, c'est pas une évolution de celle qui l'a précédée, faut le dire. C'est une toute nouvelle voiture, nouvelle carrosserie, nouveau châssis, nouveau moteur et nouvelle boîte de vitesse. Et comme toutes celles qui l'ont précédée, la C7 est en fibre de verre, sauf le toit et le capot qui sont en fibre de carbone. Et ça, évidemment, c'est pour la course au kilo. Son efficacité aérodynamique atteint elle aussi des sommets grâce aux précieuses informations qui ont été recueillies sur les circuits où les C5 et les C6 ont tout gagné. La structure en bénéficie elle aussi, hein, parce qu'elle n'a jamais été aussi rigide grâce à son squelette en aluminium. Cet été, j'ai pu conduire la version Grand Sport et ça, Daniel, je ne sais pas si tu l'as conduit, mais ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, hein. Parce que, en résumé, là, une Grand Sport, c'est une Z06, moins de moteur. Donc, une Corvette qui est conçue avant tout pour la piste. Alors, c'est une version sport extrême, avec des réglages plus fermes et des pneus qui sont presque lisses, là. Tu sais, vraiment des pneus conçus pour la piste. Et ça, je peux te le dire, là, vous allez sentir chaque petite roche et chaque fissure avec ces gros slicks, là. Sans parler des secousses quand on roule dans les ornières, c'est effrayant, là. Ça réagit, là. C'est déstabilisant, hein. La Grand Sport, peut-être encore une fois à cause de mon âge vénérable, mes 53 ans, mais très peu pour moi, je décrète. Écoute, Daniel, ça porte vraiment trop dur. Je vous ai dit que j'avais perdu des plombages en conduisant la Mustang Shelby il y a une couple de semaines. Ben, j'ai perdu ceux qui me restaient avec la Corvette Grand Sport. Ça porte vraiment trop dur. Puis il faut y penser deux fois avant d'investir 80 000 $ dans une voiture qui est vraiment pas adaptée à un usage quotidien. Moi, en ce qui me concerne, en tout cas...
Il faut faire l'essai et voir la différence avec la version régulière. Si tu vas avoir toute cette façon, tout ce réglage et ces réglages, parce que ça, c'est une bonne façon de le dire, Philippe, ces réglages-là, comparativement à celle du modèle de base, parce que le modèle de base est puissant et confortable et utilisable à tous les jours, celle-là, un peu moins.
Tout à fait d'accord. Moi, en ce qui me concerne, là, une Corvette manuelle avec le groupe d'options Z51, c'est la vraie affaire. Parce qu'à moins d'être un pilote professionnel, là, vous allez atteindre vos propres limites bien avant celles de la Corvette. Et si, comme moi, vous n'êtes pas un champion des circuits, là, l'équilibre général de cette voiture, puis ses aides à la conduite, de toute façon, ça va vous faire bien paraître. Parce que, quand même, là, la Corvette, c'est une voiture qui freine aussi fort qu'elle accélère. C'est une voiture qui tourne avec une précision chirurgicale. Puis, ses gros pneus de 21 pouces, là, mange littéralement l'asphalte. Puis la Corvette, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, Daniel, c'est une bête qui est très docile, hein, qui est facile à conduire, surtout avec la boîte automatique. La boîte manuelle, ça demande un petit peu plus d'effort, là, surtout à cause de son embrayage qui est assez ferme. Mais sinon, la Corvette n'a jamais été aussi civilisée. Même en mode sport, j'ai ressenti aucun inconfort. J'ai passé des journées complètes dedans, là. Puis pour obtenir un roulement encore plus doux, on peut en plus opter pour le mode touring. Puis si on veut une conduite vraiment sportive, ben il y a le mode track. Alors vraiment, il y a de tout pour tous les goûts. Puis en résumé, une phrase, la Corvette est meilleure que jamais.
Voilà. Hein?
Ses performances et sa tenue de route, là, c'est du calibre Porsche ou Ferrari pour la moitié et même le tiers du prix. Et dans l'univers des sportives, c'est encore celle qui en donne le plus pour son argent. Puis là, ça va être intéressant de voir ce qui nous attend avec la C8, hein, parce que la C8 s'en vient l'année prochaine avec fort probablement un moteur central, parce que là, les photos espions, là, ça sort de tout bord, de tout côté.
Ce n'est même plus discret, là.
Ouais, c'est peut-être le secret le moins bien gardé, là.
J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner.
Ah, moi aussi.
Parce que là, on peut imaginer là, les designs de Ferrari, là, on peut imaginer qu'ils vont aller un peu plus loin au niveau du design. Et là, ça va devenir genre la plus exotique des américaines.
En tout cas, on a. Ça va être une révolution pour la Corvette, une révolution sur le plan de l'architecture. Mécaniquement, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on nous promet, mais côté puissance, regarde, là, quelle puissance on atteint avec les versions les plus puissantes, la Z06, la ZR1. On risque d'avoir au moins une version avec un moteur dont la puissance pourrait dépasser les 700 chevaux, hein, le chiffre magique. De Absolument. Toute façon, Chrysler a déjà des moteurs à 700 chevaux, là, les L4, là.
Est-ce que ça va être seulement une version différente de la Corvette? Parce que est-ce qu'on devrait continuer la Corvette actuelle? J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. D'après moi, au début, on va nous la lancer comme une version spéciale de la Corvette pour en faire une version régulière plus tard.
C'est ce que disent les rumeurs. Les rumeurs disent que la première année, en tout cas, donc 2018, il va y avoir une Corvette telle qu'on la connaît, avec moteur avant, et il va y avoir la nouvelle Corvette aussi à moteur central, celle qu'on surnomme la Zora, en hommage à un des créateurs de la Corvette, le Zora Arcus Dontov. Donc, on devrait avoir, à tout le moins pour la première année, là, pour 2018, on devrait avoir simultanément les deux modèles. Après ça, on est vraiment là, dans l'univers de la spéculation.
Pour conclure, Philippe, on peut-tu dire que dans la voiture super sport, la Corvette, rapport qualité-prix, c'est la meilleure?
Moi, je te dis, c'est ma voiture de rêve. Il n'y a pas une voiture qui offre un rapport qualité-prix-performance comparable à ça. Pas une.
Merci beaucoup, Philippe.
C'est un plaisir.
Le plaisir est partagé.
Salut, Daniel.
Salut, Philippe. Alors, voilà. On vous parle jusqu'à la fin de l'émission. Au retour.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là.